Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans les rédactions face à l'intelligence artificielle générative.
Oui, et on s'appuie pour ça sur un rapport tout récent de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision.
Exactement. Un rapport basé sur des entretiens avec des responsables innovation, des directeurs de rédaction, des gens au cœur du sujet.
Et ce qui en ressort, c'est une image assez contrastée, en fait. D'un côté, l'IA est vue comme une révolution. Certains disent même...
Aussi importante que l'imprimerie.
C'est fort comme comparaison.
C'est très fort, oui. Ça promet des gains d'efficacité potentiellement énormes. Mais de l'autre côté, y a plein de questions. La fiabilité, les coûts, l'éthique, le contrôle humain.
C'est ça. Et l'idée, c'est de voir un peu comment les médias essayent de naviguer là-dedans. Hein.
Tout à fait. Alors, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit?
Eh bien, les sources montrent que les rédactions, elles adoptent l'IA. Oui, mais surtout pour des tâches internes, pour l'efficacité.
C'est-à-dire?
Ben, la traduction, la transcription, le sous-titrage, ce genre de choses. On parle de gains de qualité massifs, même, pour des langues moins courantes.
Ah oui, ça, c'est intéressant. Et les responsables sont plutôt satisfaits pour ces usages-là, où une petite erreur n'est pas dramatique, quoi.
C'est ça. On a des exemples précis, d'ailleurs. SR, en Suède.
Sveriges Radio, oui. Ils utilisent l'IA pour proposer les titres, des résumés, à partir de l'audio. Mais...
Attention.
Toujours vérifié par un humain, c'est crucial.
Exactement. Et Yel, en Finlande, ils ont créé leur propre outil, Yel GPT.
Un outil interne, sécurisé.
Justement pour que les équipes puissent expérimenter sans risque pour les données. Ça montre bien cette volonté d'avancer, mais prudemment.
Mais alors, dès qu'on parle de contenu pour le public, là c'est une autre histoire.
Ah oui, la grosse hésitation. La peur des hallucinations, ces erreurs factuelles que l'IA peut sortir.
Mais ce n'est pas juste une peur théorique, Sifi.
Pas du tout. Une recherche de la BBC, citée dans le rapport, a trouvé des erreurs dans presque la moitié des réponses d'assistants IA utilisant leur contenu. C'est énorme.
La moitié?
Oui. Et Apple a même dû stopper des alertes d'actualité IA après des erreurs signalées par la BBC. Donc, bon.
Ce qui nous ramène toujours à ce besoin de supervision humaine, le fameux « human in the loop ».
Toujours. Et ça, évidemment, ça freine un peu la promesse de généralisation d'efficacité à grande échelle, si un humain doit repasser derrière.
Mais le gain de temps n'est plus le même, forcément. Surtout pour la production de contenu sensible.
Voilà. Au-delà de ça, il y a des défis plus stratégiques qui ressortent, non?
Oui, clairement. D'abord, ce décalage de rythme. Les entreprises tech vont très très vite.
Et les médias, eux, peinent à suivre, à évaluer, à intégrer calmement. C'est un vrai défi.
Et puis, il y a le manque d'indicateurs clairs, les KPIs, comme on dit. Comment mesurer l'impact réel, le retour sur investissement?
C'est une question clé. La patronne de SVT en Suède le dit très bien, on améliore l'efficacité individuelle, la créativité, ok, mais on ne gagne pas d'argent. Pour l'instant, tout coûte plus cher.
C'est paradoxal quand même. L'IA promet l'efficacité et au final...
Pour l'instant, ça semble surtout ajouter des coûts et de la complexité. Et puis, il y a toutes ces questions de fond.
Les données, les droits d'auteur...
Les modèles économiques, la dépendance aux géants de la tech, rien de tout ça n'est vraiment résolu.
Sans parler d'une inquiétude un peu plus profonde... Sur la pensée critique.
Oui, le risque de paresse cognitive. Une prof du MIT, Patty Mays, alerte là-dessus. Si on se repose trop sur l'IA, est-ce qu'on ne risque pas de perdre en diversité de pensée, en esprit critique chez les journalistes? C'est une vraie question.
Intéressant comme réflexion. Et le public dans tout ça, comment il perçoit l'arrivée de l'IA dans les infos?
Alors, d'après les retours, ça passe plutôt bien pour les tâches techniques, en coulisses. Mais pour remplacer un journaliste sur des sujets sérieux, politiques, là, il y a du scepticisme.
Et la transparence? Faut-il tout étiqueter IA?
C'est compliqué. Chez Yel, ils disent que ça peut même agacer le public. Genre, faites votre bulot et c'est tout.
Ah oui.
La BBC, elle, est plus nuancée. On étiquette s'il y a un vrai risque que le public se méprenne sur la nature du contenu.
D'accord. Donc au final, ce qui ressort, c'est l'importance de ce que seul le journalisme apporte.
Exactement. L'enquête, la vérification, le contexte, la sensibilité, la responsabilité, cette valeur ajoutée humaine. Un responsable de l'UER le dit crûment. Si on perd le contrôle de l'info, on est fichu.
Difficile d'être plus clair. Donc pour résumer, l'IA change des outils, des tâches internes, oui. Mais on n'est pas encore à la grande transformation des processus journalistiques centraux. La prudence domine toujours, à cause de la fiabilité, des coûts, de l'éthique.
L'enthousiasme des débuts fait place à une intégration plus réfléchie, mais lente.
C'est ça. L'enjeu, c'est de trouver cet équilibre. Profiter des gains de l'IA, comme les sous-titres auto, qui sont utiles.
Tout en préservant absolument la rigueur, la nuance, le lien humain qui font la confiance.
Ce qui nous amène à une question, peut-être. Pour conclure, ou pour ouvrir la réflexion?
Vas-y. Alors où l'IA peut produire du contenu à une échelle folle, quelle sera la part irréplaçable de l'intelligence humaine? Cet esprit critique, cette sensibilité, cette capacité à enquêter sur le terrain, à comprendre le vécu...
Qu'est-ce qui fera qu'on continuera à faire confiance au travail journalistique, finalement?
Voilà. Qu'est-ce qui justifiera toujours cette confiance face à la machine? C'est sans doute ça la question essentielle pour l'avenir.